Vous êtes bien sur RFI, il est 4h à Paris, 1h de plus à Goma.
Mathis Limano.
Les élus de la RDC appelés à s'exprimer ce mardi sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Les Nations Unies font état de près de 3000 morts dans la capitale du Nord Kivu, Goma, une semaine après l'offensive du M23 et du Rwanda sur la ville. À suivre aussi, les colis en provenance de la Chine ne sont plus livrés aux États-Unis. Décision des services postaux américains. Alors que Donald Trump a ravivé la guerre commerciale avec la Chine, Pékin a déposé plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce, mais a-t-elle une chance d'aboutir? Élément de réponse dans ce journal. En France, l'État dans la tourmente en plein scandale des eaux en bouteille. Et puis Serge Atlaoui, détenu en Indonésie depuis près de 20 ans, doit atterrir à Paris dans les prochaines heures. On débute donc ce journal en République démocratique du Congo. Députés et sénateurs étaient réunis hier mardi en session extraordinaire pour discuter de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Une session qui s'est tenue une semaine après l'offensive des rebelles du M23 et de l'armée rwandaise sur la ville de Goma, qui est désormais occupée, selon Kinshasa. C'était la première fois que la question sécuritaire au Nord Kivu était débattue avec tous les élus en plénière, Alexandra Banjon.
Le président veut épargner des vies humaines,
a déclaré le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe aux députés présents dans la salle. 500 élus conviés en session extraordinaire afin d'examiner la situation sécuritaire dans l'est du pays et surtout discuter des voies de sortie de crise. Pour le député de l'Ituri, Gratien Irachan, cela passe par le dialogue.
Je ne peux pas accepter que les gens continuent de mourir. Il faut donner la chance au dialogue, notamment avec tous ces groupes qui sont en train de se manifester à l'est. On a eu ces processus de Nairobi, de Luanda, mais il faut approfondir et il faudra à un moment donné que notre gouvernement ne soit pas sur la défensive, tout simplement.
Dialogue également pour l'élu de Goma, Hubert Furuguta, mais pas avec n'importe qui.
Tout ce qui peut nous amener à la paix est le bienvenu. Nous sommes prêts à tout. Mais ce qui me fait très mal, c'est le fait que le monde appuie l'ennemi à nous écraser, puis le monde nous demande d'aller aux négociations. C'est comment on va faire aujourd'hui. C'est pour sauver les peuples.
Le président de l'Assemblée a annoncé la mise en place d'une commission mixte Assemblée nationale-Sénat qui doit faire des propositions diplomatiques et politiques concertées pour une sortie de crise. Il a également assuré aux élus que le chef de l'État souhaite négocier mais pas vendre le Congo. Alexandra Branchon, Kinshasa, RFI.
Près de 3000 personnes sont mortes à Goma depuis l'offensive selon les Nations Unies. Déclaration en cascade et déclaration choc à la Maison-Blanche. Donald Trump veut faire de Gaza la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Propos tenu à l'occasion d'une conférence de presse avec Benjamin Netanyahou. Avant cela, il a promis que les États-Unis allaient prendre le contrôle de l'enclave palestinienne afin de la sécuriser, de la développer. Des idées qualifiées d'innovantes et saluées par le Premier ministre israélien qui estime que le plan de Donald Trump pourrait changer l'histoire. Le président américain a aussi promis de se rendre à Gaza. Au menu également de cette conférence de presse, la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite que Donald Trump appelle de ses vœux, idée directement écartée par Riyad. Pas de normalisation avec Tel Aviv sans la création d'un État palestinien, a répondu la diplomatie du royaume. La Chine réplique aux taxes américaines. Quelques minutes après leur entrée en vigueur, Pékin a annoncé sa volonté de taxer de 15% les importations d'hydrocarbures, de charbon et de certains véhicules en provenance des États-Unis, en représailles aux taxes douanières de 10%, ciblant désormais tous les produits chinois. Le gouvernement de Pékin a aussi annoncé avoir déposé plainte auprès de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, une organisation déjà très fragilisée, comme l'explique Elvire Fabry, chercheuse à l'Institut Jacques Delors.
L'OMC a une spécificité, c'est qu'il a un organe de règlement des différends qui est le muscle de l'OMC, qui permet de régler les différends entre les États membres et qui était constitué d'un organe de règlement des différends et d'un organe d'appel. Et c'est précisément le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que les États-Unis ont bloqué le fonctionnement de cet organe d'appel depuis 2019. Les Européens et d'autres partenaires à travers le monde, et y compris la Chine, ont mis en place un mécanisme alternatif d'appel et qui permet de continuer à traiter les dossiers de contentieux comme auparavant. Simplement, les États-Unis n'en font pas partie. Donc, les États-Unis se sont affranchis de cette possibilité de règlement des différends. Et en d'autres termes, on a affaire aujourd'hui à une organisation mondiale du commerce très vulnérabilisée par le blocage de son règlement des différends.
Elvire Fabry, chercheuse à l'Institut Jacques Delors, jointe par Justine Fontaine. Et à l'instant, les services de la Poste américaine annoncent ne plus accepter temporairement et jusqu'à nouvel ordre les colis en provenance de Chine, provoquant la chute des actions en bourse d'entreprises chinoises de e-commerce.
RFI.
En Suède, cette fusillade meurtrière dans une école. Une dizaine de personnes tuées par un tireur inconnu des services de police dans un centre d'enseignement pour adultes à Orbro, à environ 200 km à l'ouest de Stockholm. La police écarte pour l'instant la piste terroriste. Le tireur présumé qui a fait irruption en plein cours aurait également été tué lors de l'intervention de la police, selon la presse suédoise. Il aurait retourné son arme contre lui. En France, des médias accusent l'Élysée et Matignon d'avoir cédé au lobbying du groupe Nestlé en laissant le groupe commercialiser des eaux non conformes à la réglementation et à risque pour la santé, malgré les recommandations d'interdiction des autorités sanitaires. Victorien Villaume.
Scandale d'État à gauche, les mots sont forts pour commenter cette présumée entente entre l'exécutif et Nestlé. Cyrielle Châtelain, députée écologiste.
Tout est choquant, le fait que Nestlé ait pu continuer à exploiter des sources qui ne devaient plus être exploitées. Les cabinets des ministres étaient impliqués dans cette affaire, le fait que c'est coûté des milliards d'euros aux consommateurs directement.
Il faut établir précisément les responsabilités, complète l'insoumis Adrien Clouet.
Le Parlement dans son ensemble doit se saisir du sujet. On ne peut pas protéger une clique de macronistes. Si des gens délibérément dans ce pays en empoisonnent d'autres pour distribuer des dividendes, oui, ils sont passibles de la justice.
Également dans l'opposition, mais à l'autre bout de l'échiquier politique, le Rassemblement national prend acte, mais reste prudent. Laurent Jacobelli.
On ne peut pas décider simplement sur l'enquête d'un journaliste. Il faut être sûr avant d'accuser. Mais effectivement, il y a un faisceau d'indices pour laisser imaginer que l'Élysée est assez perméable aux demandes des grands groupes.
Malaise palpable dans le camp présidentiel. Personne ne souhaite répondre. En marge d'un déplacement, le président Macron lâche tout de même quelques mots.
Il n'y a de l'entente avec personne, il n'y a pas de connivence avec qui que ce soit, il y a un travail qui est fait.
Sollicité, l'Élysée reconnaît avoir été contacté par Nestlé, mais affirme avoir renvoyé les intéressés vers les services de l'État compétents.
Et notez qu'une commission d'enquête sénatoriale se penche déjà sur le sujet depuis décembre dernier. C'est le devoir de notre commission de vérifier si l'Élysée est en cause, a commenté le sénateur socialiste en charge de la commission Alexandre Wizir. Le gouvernement Bayrou épargné et bientôt un budget pour le pays. Le Rassemblement national a mis fin ce mardi au suspense. Le parti ne votera pas les motions de censure déposées à l'Assemblée par la France insoumise. Avant cela, les socialistes avaient annoncé ne pas voter non plus la censure. Une décision courageuse, a salué le garde des Sceaux Gérald Darmanin. Ces motions de censure examinées ce mercredi découlent de l'activation de l'article 49.3 par François Bayrou sur le budget de l'État et une partie de celui de la Sécurité sociale. Il est attendu à Paris ce mercredi dans la matinée. Serge Atlaoui, condamné à mort en Indonésie. Il sera de retour en France après 19 ans de prison. Condamné pour trafic de drogue, cet artisan soudeur de 61 ans a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés. Mais son avenir en France reste pour l'instant très incertain, Carlotta Morteo.
Transféré ne veut pas dire libéré. À son arrivée à l'aéroport de Roissy, escorté par la police, Serge Atlaoui sera conduit devant un procureur qui lui notifiera de son incarcération dans un établissement pénitentiaire français. Combien de temps restera-t-il encore en prison ? Cela va dépendre de l'évaluation qui sera faite dans les prochains jours, les prochaines semaines par la justice française qui doit adapter sa peine indonésienne au droit français puisque la peine de mort est interdite en France. Ses proches, qui pourront au moins le voir désormais au parloir, espèrent que cela conduira effectivement à une remise en liberté d'ici peu, Serge Atlaoui ayant déjà purgé 19 ans dans une prison indonésienne dans des conditions de détention d'autant plus difficile qu'il aurait été malade ces derniers temps. C'est en tout cas la raison officielle invoquée par Jakarta pour justifier le fait que Serge Atlaoui n'a pas été exécuté et qu'il a finalement été autorisé à rentrer dans son pays d'origine.
Et puis un mot de foot, le PSG file en quart de finale de la Coupe de France. Après sa victoire sur la pelouse du Mans, deux divisions séparent les deux formations. Billet composté aussi pour Brest, mais pour Lille, l'aventure s'arrête là. Les Lillois sortis de la compétition par Dunkerque, équipe de Ligue 2. RFI, les 4h10 à Paris, une heure de moins en temps universel. Tout de suite, c'est le grand reportage, puis l'actualité africaine dans une vingtaine de minutes.